Salut, c'est Benoît du podcast Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Vosges, à la rencontre d'Agathez, brasseuse à la Brasserie du Roulier. Une brasserie qui se revendique innovante et créatrice, avec une brasseuse qui a une façon bien à elle de fabriquer ses bières. Aujourd'hui, je suis avec Agathez à la Brasserie du Roulier. Salut Agathez.
Bonjour tout le monde.
Je profite d'un petit séjour. Si on est dans les Vosges ici.
Oui, on est dans les Vosges. Alors les Vosges du Sud, hein, puisque on est à 10 minutes de la Haute-Saône et de la Franche-Comté, donc c'est les Vosges du Sud, mais c'est bien les Vosges.
Et donc pour visiter un peu ta brasserie, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette brasserie, de comment t'as atterri là et pourquoi la brasserie ?
Alors en fait, moi je suis brasseuse amatrice depuis 12 ans. Ça m'est venu parce que avant, je faisais plein de boissons par rapport aux plantes, etc. Je m'intéressais à ça et je m'étais toujours intéressée à la bière, mais sans avoir jamais franchi le pas. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de participer à un atelier, un petit atelier d'une journée. Et depuis, bah, je me suis plus jamais arrêtée. Donc j'ai expérimenté, je me suis documentée. À l'époque, il y a 12 ans... c'était beaucoup moins facile que maintenant. Mais il commençait quand même à y avoir un petit réseau de brasseurs amateurs. Donc, j'ai rejoint ce fameux forum brasseurs amateurs sur Internet, où là, avec de multiples échanges, on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, j'ai fait l'école d'été des brasseurs à Saint-Nicolas-de-Port. J'ai rencontré beaucoup de brasseurs, puisque en fait, c'est ça qui permet d'avancer aussi, c'est les échanges, et puis de voir les gens brassés, de voir les multiples brasseries et microbrasseries qui, à l'époque, se montaient petit à petit. Il n'y en avait encore pas tant qu'aujourd'hui, mais ça commençait. Et puis s'intéresser aussi aux bières du monde entier et pas seulement aux bières qu'on avait l'habitude, nous, de boire soit en France ou en Belgique. Et puis là, à force d'être baignée dans tout ça, petit à petit, je me suis mis à avoir une patte au niveau de mes bières, que j'ai fait goûter à pas mal de brasseurs de l'époque, de brasseurs pros, qui m'ont encouragé à faire quelque chose autour de la brasserie. Donc, d'amateur, je suis passée à pro, mais uniquement en termes de légalité, puisque je fais toujours une petite, très petite quantité, et ça, c'est voulu. Ceci aussi, afin de pouvoir effectivement partager ma passion, faire les bières dont j'ai envie, pas me cantonner dans un rôle commercial de prospection et pas non plus avoir une routine dans le brassage. Donc la petite quantité, c'est vraiment tout ce qui collait. Et donc on a trouvé ce lieu qui reflétait un petit peu tout ce dont on avait besoin, puisqu'on voulait aussi que ça soit un lieu où les gens viennent nous rencontrer, où les gens peuvent venir s'attabler à la terrasse, sortir le pique-nique et pourquoi pas dormir sur notre yourte, puisqu'on a une yourte sur le terrain.
Petite quantité, au niveau de la distribution, c'est uniquement vendu ici à la brasserie, si j'ai bien compris ?
Oui, alors c'est ça, c'est vendu en direct à la brasserie, sauf quelques exceptions, puisqu'on peut faire aussi des soirées dégustation dans des bars ou des caves à bière, dont les gérants sont des amis en fait, et donc laisser quelques quilles après à la vente chez eux, mais tout le gros de la production est vendu ici en direct, sur rendez-vous, ou alors la porte est souvent ouverte, pas de jour d'ouverture, pas d'heure d'ouverture, vient qui veut, et puis si on est là, on sera un plaisir de vous vendre des bières, de discuter, d'échanger, de visiter la brasserie, de déguster.
T'es venue à la brasserie professionnelle après avoir été brasseuse amatrice, mais avant d'être brasseuse amatrice, tu faisais quoi comme métier ?
Ah, je faisais quoi et je fais toujours, je suis éducatrice à mi-temps. C'est un boulot qui est très prenant et j'avais besoin à un moment donné d'avoir un autre travail complètement différent qui me sorte un petit peu de l'autre où c'est un boulot éduc où on y trouve aussi un peu beaucoup moins de sens qu'avant. Donc j'avais besoin de faire tout autre chose. Et le fait d'avoir deux métiers complètement différents, là j'ai trouvé mon équilibre.
Sur la brasserie, vous êtes deux, c'est ça ? Toi et Bernie ?
Oui, alors on est deux sur la brasserie. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il n'y avait que moi. Malheureusement, j'ai eu des ennuis de santé. Donc tout ce qui est manipulation, je ne peux plus trop faire. Donc Bernie s'occupe vraiment de la partie fabrication de la bière et moi de la conception des recettes.
On a parlé un peu plus tôt aussi d'ateliers que tu organises ici. Comment ça se déroule en général ?
Alors en fait, les gens prennent contact avec moi par mail. Et puis, donc, ils ont le choix entre venir brasser 20 litres ou 40 litres de bière qui seront conditionnées comme celle de la brasserie en bouteille de 50 centilitres ou alors en fût si c'est en vue d'un événement. Et donc, avec les personnes, on décide d'un style selon les goûts de la personne qui veut venir brasser. Et je leur conçois une recette personnalisée. Et ils viennent le jour du brassage, seuls ou accompagnés jusqu'à 7 personnes. Et puis, ce jour-là, ils vont faire leur propre bière. Ils vont apprendre comment ça se passe. Et puis, j'adapte en fonction de ce que la personne a envie ou pas d'apprendre, si elle veut aller plus loin, si après elle veut brasser chez elle, etc. J'adapte. Et pendant la journée, et pendant les temps morts, parce qu'il y a des temps morts aussi pendant un brassin, ils ont accès à toute une bibliothèque de livres, je réponds à leurs questions, on a des petits jeux aussi autour de la bière, on peut faire aussi les dégustations évidemment des bières du moment ici, enfin voilà, il y a tout un échange, on pique-nique ensemble, et puis 2 mois après, ils viennent rechercher leurs 20 litres ou 40 litres de bière, et entre-temps, on conçoit ensemble une étiquette personnalisée.
Alors, on sent que l'élaboration de la recette, c'est quelque chose d'assez important pour toi, est-ce que tu fonctionnes sur une gamme fixe, ou alors est-ce que c'est une gamme tournante en fonction des saisons, en fonction de tes envies?
Alors ici, il n'y a pas de gamme fixe. Je pense que depuis l'ouverture de la brasserie, il y a eu à peu près 100 de recettes de proposer, dont certaines reviennent plus régulièrement depuis plusieurs années, mais pas du tout de gamme, puisqu'on va dire qu'il y a à peu près 20 de recettes qui tournent et qu'on fait au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des stocks. On essaye d'avoir un petit panachage de bières et de styles différents. Selon les moments et selon aussi les clients, il se peut qu'il n'y ait que 2 sortes de bières, comme il se peut qu'il y ait 10, comme on avait après le premier confinement.
Au niveau des matières premières, tu travailles le sourcing, est-ce que tu as déjà essayé de travailler en local ou est-ce que c'est compliqué dû au... Peut-être que dans les Vosges, je ne suis pas sûr qu'il y ait des malteries ou des houblonnières.
Oui, alors c'est un peu compliqué, mais on essaye quand même avec plusieurs brasseurs du coin de se documenter là-dessus, de s'informer. Pour l'instant, j'avoue que ce n'est pas la priorité de notre brasserie, même si sur notre bière la plus classique, qui est la Vendesta, on a choisi de prendre des houblons alsaciens.
Tu as un style de bière que tu aimes travailler en particulier ou est-ce que il n'y a pas vraiment de style que tu préfères par rapport à un autre?
Alors depuis le départ, depuis que je brasse, donc depuis 12 ans, peut-être un peu moins quand même, depuis 10 ans on va dire, la caractéristique de mes bières, elles travaillent du houblon. Elles sont quasiment toutes dry hoppées. Pas forcément toutes des IPA, pas forcément toutes avec une amertume prononcée, mais elles ont presque toutes un travail autour du houblon.
Est-ce que tu as eu l'occasion de faire, peut-être des brassins en collaboration ou d'aller peut-être te former dans des brasseries?
Oui, alors des collabs, on en fait souvent avec les amis brasseurs, autant quand j'étais amatrice, autant qu'encore maintenant. Et aller brasser dans des brasseries, oui, bien sûr. Donc voilà, moi je suis pote avec les Piggy, je suis pote avec Copy Road, je suis pote avec Bendorf, avec la brasserie de la Pleine Lune aussi, les Garrigues. Enfin voilà, tout ce noyau. Il y a eu un noyau, il y a 10 de brasseurs qui faisaient partie du front de Libération, qui ont amené énormément à la bière et qui ont fait en sorte que la bière française ne soit plus que des bières de garde du Nord. Ils ont ouvert la voie à tous ces nouveaux styles de bière que l'on trouve maintenant dans quasiment toutes les brasseries. Après, j'aime pas les effets de mode. On va dire que j'aime bien aussi brasser les lagers, donc les bières de fermentation basse. Et c'est principalement dans celles-ci que je vais travailler, par exemple, des poivres, des faux poivres ou des plantes.
Tu vas brasser parfois justement en utilisant des plantes que tu as cueillies dans la région?
Oui, alors les plantes, elles sont d'ici, du Roulier. Donc j'avais une bière phare, une lager au poivre de Sichuan. Poivre de Sichuan dont je me fournissais chez un producteur. Et une fois, je lui ai offert une bouteille de bière que j'avais faite avec son poivre. Et en échange, il m'a offert un plant de poivre de Sichuan. Et je me suis demandé si ça allait pousser dans les Vosges. Mais oui, ça pousse. C'est devenu un arbuste. Et maintenant, j'ai ma récolte pour faire ma lager au poivre de Sichuan. Alors j'en fais peu avec des plantes, mais j'ai fait encore collaboration avec les amis de la capsule Cava Bière à Nancy, une bière à la menthe bergamote par rapport à Nancy, bergamote. Et c'est une variété de menthe qui sent vraiment la bergamote et ça avait donné voilà, une pale ale menthe bergamote qui avait été bien appréciée.
Est-ce que durant ta carrière, tu as eu une expérience un peu marquante, quelque chose que tu as eu la chance de faire et qui t'a apporté beaucoup?
Oui, alors ce qui me vient tout de suite, évidemment, c'est l'extraordinaire expérience que j'ai pu faire en tant que jury au Mondial de la bière à Montréal. Je ne sais plus exactement l'année, mais je pense que c'était en 2015 ou 2016, enfin quelque chose comme ça. Et là, c'était extraordinaire puisque j'ai pu rencontrer des professionnels de la bière du monde entier et surtout un extraordinaire réseau de brasseurs, de brewpubs, de restaurants, de caves à bière, tout autour de Montréal et au Québec. Et donc, j'ai fait des rencontres fabuleuses. L'expérience du concours en lui-même était une riche expérience puisque c'est un concours qui se fait sans style et à l'aveugle. Donc, c'est très particulier, c'est assez éprouvant. Évidemment, on apprend énormément. Et puis, j'ai pu rencontrer des gens avec qui je suis toujours en contact. J'ai eu la chance aussi d'être invitée et de visiter la brasserie Le Trou du Diable à Shawinigan et d'aller brasser au brewpub du Dieu du ciel, ce qui est une opportunité incroyable pour nous, brasseurs de la petite brasserie du Roulier, qui brassons 30 hectos par an au fin fond des Vosges.
Ouais, parce que c'est vrai que souvent la scène québécoise est souvent un modèle, j'ai remarqué, pour les brasseurs que je rencontre. Tu penses que ça vient d'où ce fait qu'il y ait ce vrai amour du Québec et surtout de la brasserie québécoise?
Il y a un vrai amour parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous, hein, influence aussi américaine avec tout ces styles qui ont germé bien avant nous en Europe. Et puis, y a ce côté passion. La bière, pour eux, c'est aussi une histoire de passion, de recettes. Moi, j'ai été super agréablement surprise de voir que quasiment toutes les brasseries cultivent leur levure, font des travaux extraordinaires en microbiologie, sur les levures. C'est facile de rencontrer le brasseur, les brasseurs. Ils ont envie d'échanger. Ils ont quasiment tous un lieu, un brewpub où on peut s'asseoir, où on peut manger, où on peut discuter. Et ça, je pense qu'on en est encore loin en France, et c'est ce qui manque en fait.
Oui, parce que c'est vrai qu'ici, le lieu est pas très grand, la brasserie est pas très grande, mais il y a vraiment une sorte justement d'esprit brewpub. Je trouve ça assez intéressant, puis rigolo que sur un lieu qui est un peu perdu, qui est assez petit, finalement, il y a cette dimension brewpub qui soit aussi importante.
Oui, c'est ce qui étonne toujours les gens quand il y a des gens qui osent franchir et faire sonner la petite clochette. Bonjour, c'est bien ici la brasserie, c'est ouvert? Oui, rentrez. Donc ils rentrent déjà, ils voient le lieu, hein, donc avec ce grand terrain, ce terrain de jeu, les petites terrasses en palette, etc., la yourte. Et puis après, je les amène dans mon petit magasin tout petit dans une vieille grange qui fait un peu cabinet de curiosité, un petit peu à l'ancienne. Et puis là, on ouvre les bières, on en parle, on discute. Et à chaque fois, les gens de tout âge, les gens de tout milieu sont agréablement surpris de découvrir un endroit comme ça complètement atypique. Je pense que ce qu'ils aiment aussi, c'est de rencontrer les brasseurs qui parlent et qui sont passionnés. Et c'est un vrai savoir-faire en fait, artisanal, mais aussi autour de l'échange, puisqu'on peut parler aussi bien de plantes que de fermentation, etc. Et il y a cet esprit, évidemment, échange et discussion, convivialité qu'on retrouve dans les brewpubs.
Tu parlais justement de fermentation, de levure. Tu travailles en levure sèche, levure liquide, ou alors tu cultives tes propres levures?
Alors non, nous on travaille en levure sèche parce qu'on est un peu feignant. On n'a pas le lieu pour, on n'a pas la logistique. C'est un autre boulot. Par contre, moi, j'adore les sour beer et par contre, je n'en fais pas. Je sais qu'il y en a d'autres qui en font très très bien et j'adore ce style de bière. Mais moi, je me suis gardé cette ligne de travailler principalement sur le houblon et je m'y tiens. On va dire que c'est ma patte. Alors même si des fois je m'éloigne de ce style et j'essaye aussi de faire d'autres choses, mais je reste quand même sur cette histoire de travail de houblon. Et quand on travaille le houblon, on a plutôt tendance à utiliser une levure plutôt neutre. Donc j'ai beaucoup de respect et j'admire tous ceux qui font ce travail autour des levures et aussi tous ceux qui font ce travail de mûrissement en barrique qui est très intéressant. J'ai un grand respect, mais Voilà, ici, non, on le fait pas. J'ai expérimenté de faire une bière à l'absinthe, donc, mais là, en rajoutant de l'absinthe artisanale, donc une stout, une bière noire à l'absinthe, elle a énormément plu. J'ai fait un petit périple dans la région donc, du Jura pour visiter toutes les petites distilleries artisanales qui produisaient de l'absinthe. J'en ai sélectionné quelques-unes et je vais refaire ce stout avec cette absinthe. Et elle a été faite en hommage à Clémentine Delay, qui est la fameuse femme à barbe des Vosges qui tenait un café à Taon.
Donc tu parles souvent du forum Brasseur Amateur. C'est un forum où tu es très active?
Alors j'étais très active tout au début. Maintenant malheureusement j'ai plus le temps, je suis plus très active. Mais j'ai gardé des liens assez forts avec certains membres. Tous les ans on a une rencontre annuelle où on se retrouve en Bourgogne pour échanger autour d'un week-end. D'ailleurs c'est toujours le week-end de l'Ascension. Pour échanger nos savoir-faire, nos bières, etc. Et c'est un moment très convivial qui manque puisque en 2020 et en 2021 ça devait être ce week-end, donc il n'aura pas lieu. Ce qu'on a fait avec quelques amis du forum, on a monté une journée où on a fait un brassage en commun, le même jour avec l'aide de la plateforme Zoom, et donc on s'est filmé tous ensemble dans notre petit coin, en train de filmer une recette qu'un membre du forum avait proposé, 3 ou 4 recettes sur le même thème, et donc nous avons brassé ensemble le même jour, et on s'est rencontrés ici au Roulier, un week-end au mois de juillet, pour partager ensemble les bières qu'on avait brassées le jour-là et autres. Donc on a fait une mini-rencontre. Et d'ailleurs, cette rencontre entre brasseurs amateurs et pros de la région, ben, je l'organise depuis à peu près 10 ans. Donc chez moi, pendant un week-end, on va se rencontrer entre passionnés du brassage pour ne parler que de ça, déguster, partager aussi des savoir-faire culinaires parce que chacun vient de différentes régions. Et c'est vraiment des échanges qui sont en fait très très riches. C'est les moments en fait les plus riches, c'est les moments qui te reboostent, qui te font envie, qui te font éclore de nouvelles recettes, de nouvelles idées, de trucs aussi, d'astuces. C'est le moment aussi où on parle de la nouveauté, parce qu'il faut toujours se tenir informé. C'est évidemment un moment très convivial.
En parlant de brassage, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu ta brasserie?
Allez, on y va!
Donc ici, maintenant, on est dans le cœur du lieu. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ton installation?
Alors en fait... on a avec Bernie, mon conjoint, donc on a fabriqué une pico, que ce qu'on appelle une pico brasserie. Donc en achetant des gamelles de la dimension qu'on voulait et puis en fabriquant nous-mêmes le châssis, les vannes, etc. Donc là, en fait, on a deux installations. Hein. On a une installation qui nous permet de brasser 50 litres de bière finie et une autre qui nous permet de brasser à peu près 70 litres de bière finie, puisqu'on a des fermenteurs de capacité soit 100 litres, soit 60 litres. Il arrive que l'on fasse un brassin simultané, mais c'est assez rare. C'est compliqué, c'est long.
C'est vrai que c'est une petite installation. Et par contre, là, je vois dans le coin de la pièce, il y a une chambre froide. Est-ce que justement, elle sert à la conservation ou à brasser justement les lagers que tu aimes bien?
Oui, alors la chambre froide, elle a plusieurs utilités. Hein, déjà, de pouvoir faire la conservation des levures et des houblons. Les houblons, je les conserve plutôt dans un congèle. Mais elle sert aussi pour faire le cold crash des bières. Donc, c'est une garde froide où l'on met les fermenteurs avant l'embouteillage.
Tu m'as dit, à peu près une cinquantaine de litres par semaine, et à l'année, ça représente?
Oui, c'est à peu près ça, on est aux alentours de 30 hectos à l'année.
Alors tu m'as dit que tu faisais du fût aussi?
Oui, ça arrive, mais très peu souvent. Ça arrive parce qu'on a un petit concert ici, parce qu'on a une fête d'organiser, ou alors parce que, par exemple, ça arrive que je fasse quelques fûts quand il y a des concerts chez Narcisse, parce qu'eux font brasser leur bière chez Bon Poison à Metz. Mais des fois, ils aiment bien avoir un fût ou deux d'ici, puisque c'est du village, quoi.
Et sinon, au niveau de la région, il y a beaucoup de brasseries, ou alors c'est une des seules brasseries sur le secteur?
Oh non, il y en a beaucoup. On est deux au Val d'Ajol déjà, sur la petite commune du Val d'Ajol. Enfin, c'est pas une petite commune, c'est une commune assez étendue, mais petite par le nombre d'habitants quand même. Non, on est de plus en plus et ça a augmenté encore. En 2 ans, là, je sais plus combien on est dans les Vosges, mais on est pas mal.
C'est plutôt encourageant pour l'activité, non?
Oui. Moi, je suis pour qu'il y ait des petites brasseries. Alors, c'est surtout des petites, en fait, qui se montent, mais moi, je suis pour qu'il y ait des petites brasseries un peu partout dans les villages des Vosges. Et puis, ça permet d'avoir différents styles. Ça permet que les gens aillent plutôt vers ce genre de bières qui sont faites localement, artisanalement, quand ils viennent soit en tourisme, soit les gens locaux, plutôt que qu'ils achètent des bières industrielles en supermarché. Donc, je suis pour. Plus on est de fous, mieux c'est. Le milieu des petites brasseries comme ça, en fait, on est assez solidaire. On peut s'entraider aussi pour des commandes groupées, etc. Et d'ailleurs, on va, sur la demande de la ferme aux hirondelles à Thiéfosse, qui organise un marché de petits producteurs tous les samedis matins, on va faire un petit marché de la bière le 17 juillet, en espérant réunir le maximum de brasseurs vosgiens.
Tu vends pratiquement exclusivement à la brasserie. Donc finalement, est-ce que le Covid, ça a impacté les ventes de bière pour toi, ou finalement, tu n'as pas trop senti la différence, parce que la majorité de tes clients, c'est une clientèle locale en fait?
Oui, alors on a senti quand même un petit peu la différence au premier confinement, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, donc on n'a pas décidé de maintenir l'ouverture du magasin, donc où il y avait quelques gens, personnes qui nous demandaient, on disait oui, bon, les copains, tout ça, les connaissances, mais voilà, sans plus. Et puis, au fur et à mesure, après, au deuxième confinement, non, ça n'a rien impacté, parce que les gens sont habitués, donc ils passent un petit coup de fil pour savoir aussi si j'ai du stock, parce que des fois, j'en ai plus. Donc, qu'est-ce que t'as ? Est-ce que t'as de la bière en ce moment ? Est-ce qu'on peut venir ? Et puis voilà, ça se passe comme ça. Et c'est très bien parce qu'il y a eu une période où j'avais des heures d'ouverture et en fait, je me faisais dévaliser. Donc, il y avait trop de monde qui passait et j'arrivais pas à suivre. Et comme on n'a pas envie de faire grossir notre production, on préfère voilà, s'en tenir à justement des prises de rendez-vous pour que les gens viennent sur place acheter les bières et ça nous convient très bien.
Prendre le temps un peu de discuter avec les gens qui viennent, parce qu'on sent que voilà, l'aspect partage est important pour toi.
Oui, c'est ce qui est important. D'ailleurs, originellement, la brasserie s'appelait Brasserie Partisanale du Roulier. Elle se voulait aussi partisane dans le sens où ici, on partage des savoir-faire. On aime troquer aussi. On aime tout ce qui est do it yourself. On aime le jardinage. On est un petit peu quand même à l'écart de la société consommatrice. Et le fait de partager les savoir-faire, ça va aussi dans ce sens-là. Donc, il y a un petit côté partisan, il y a un petit côté convivial, il y a un petit côté aussi partage. Et évidemment, ça va de pair avec le fait de voir de visu les clients et de pouvoir les conseiller et discuter avec eux.
Au-delà de la brasserie, c'est vraiment un lieu de vie ici.
Oui, c'est un lieu de vie. c'est vrai, c'est un lieu de vie. Ça nous arrive aussi d'organiser des concerts, d'organiser des pique-niques, de faire des fêtes, y compris avec les voisins qui nous soutiennent aussi. C'est important. On habite un petit hameau de 5 maisons, mais tous les voisins ont tout de suite adhéré à ce qu'on proposait. Et puis maintenant, sont tous des amis. Donc cette dimension de partage, de lieu de vie, de lieu de convivialité, voilà, il est à l'échelle aussi de ce hameau.
À force de parler de tes bières, moi ça m'a donné envie de les goûter. Est-ce qu'on n'irait pas tester un peu tout ça ?
Mais avec grand plaisir, je t'emmène dans mon antre.
Là, on se trouve dans... Bah, je dirais que ça pourrait être une reconstitution historique d'un bistrot avec un baby-foot, une borne d'arcade. Je vois qu'il y a un jukebox. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce lieu ?
Donc c'est un petit lieu, oui, que j'ai voulu un peu comme une antre, comme avec une petite ambiance aussi, vieux pub, mais vraiment vieux. Hein. Et puis on a réussi à récupérer effectivement un vieux tonneau de chêne qui a servi pour la brasserie des Vosges à l'époque, donc avec une magnifique colonne de tirage. On a récupéré un baby qui a dû être fait par un menuisier dans les années 50. La table, c'est un vieux pétrin. Donc elle est creusée pour faire le pain. Voilà, il y a un vieux jukebox aussi des années 70 parce que j'adore les vinyles et la musique. Et puis voilà, donc c'est fait un peu tout de bois. Il y a de la déco qui est un peu décalée, comme une magnifique guitare avec des cordes en barbelé. Des vieilles affiches d'école sur l'alcoolisme et la bière. Voilà, des vieilles affiches aussi, des vieux sous-bocs. Enfin voilà, ça fait un petit peu cabinet de curiosité. Les gens apprécient bien l'ambiance qui se dégage de ce lieu.
Et puis il y a ce petit bar où à côté il y a les bouteilles. Est-ce que tu peux nous faire un peu le tour de ce que tu as en ce moment ?
Voilà, donc c'est les bières du moment, hein, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure... On n'a pas de gamme. Aujourd'hui, nous allons trouver de la Vendesta. Donc la Vendesta qui est une pale ale assez classique, mais quand même bien houblonnée, dry hoppée, avec du houblon alsacien. Nous allons trouver à côté une saison. Donc j'aime bien le style saison et je m'amuse à les travailler avec différents houblons. Et donc celle-là, nous sommes à la saison 1, épisode 6. Et donc elle a été travaillée avec du houblon Atanum. Ensuite, nous avons la Sichuaneuse. Donc c'est la lager avec ce fameux poivre de Sichuan qui a poussé ici. Après, nous avons l'IPA 12. Donc ça, c'est la seule recette de mon compagnon Bernie. C'est une IPA un peu à l'ancienne. On va être sur une bière ombrée, bien amère. Oui, une IPA à l'ancienne, un petit peu sur le résineux. Et elle est beaucoup appréciée. On a aussi la Chineuse. Alors, la Chineuse tourbée, moi, c'est quasiment ma bière préférée du roulier. C'est en fait c'est une bière tourbée. Mais tout en finesse. C'est une bière ambrée, houblonnée au chinook, avec une pointe de tourbe qui en fait une bière à la fois très atypique, mais quand même très buvable. À côté, il y a la Painted Black, donc je suis fan de stout et j'ai beaucoup de recettes de stout. Elle est à 7%, donc c'est pas si fort que ça pour une stout. Et là, on est plutôt sur des arômes de forêt noire. Voilà, on n'est pas du tout sur le café ou la réglisse. On va être sur le chocolat et le fruit rouge. Et puis alors, tout en dessous, quelques bières d'une petite brasserie qui a ouverte récemment à Rupt-sur-Moselle et dont la particularité c'est que le brasseur c'est mon fils.
Ok, donc c'est vraiment une histoire de famille la brasserie.
C'est une histoire de famille et d'ailleurs j'ai pu découvrir récemment que j'avais un ancêtre qui était brasseur à la fameuse brasserie des Vosges. Voilà, on a découvert qu'il était brasseur, donc à mon avis peut-être il y a des histoires de gènes là-dedans peut-être.
Pour la dégustation, tu nous as sélectionné 3 bières, c'est ça ?
Donc c'est ça. Donc un petit panel des bières un peu, on va dire, classiques du roulier et qui reviennent régulièrement. Donc on va commencer par boire la lager au fameux poivre de Sichuan qui a poussé ici même sur ce terrain.
Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu cette bière ?
Alors, comme toutes les lagers, on va retrouver au niveau du visuel quelque chose de très très clair, très limpide, avec de fines bulles. On va avoir une mousse aussi bien blanche, assez délicate, et puis au nez. Donc on se dit, tiens, on va avoir une petite sensation là, de frais qui nous arrive aux narines, et puis on se dit, tiens, c'est quoi ? On se demande. Ouais, un petit goût quand même, un petit goût qui intrigue, qui est un peu frais. Alors on goûte. On goûte, c'est bien une bière. On retrouve les caractéristiques d'une bière de fermentation basse, c'est-à-dire assez fine, pas complexe. On va pas avoir le malt qui ressort, la levure qui ressort. On ressent quand même un petit peu les houblons. Et puis, il y a ce petit goût-là. Et si on creuse un petit peu, on se dit « Ah oui, ça fait quand même un petit goût de citronné avec une petite pointe de résine. » Et je pense que le poivre de Sichuan qui a poussé dans les Vosges, qu'il a pris ce petit côté résineux comme les bourgeons de sapin, en fait. Et qu'il est un peu différent du poivre de Sichuan qu'on peut trouver et importer d'Asie. Ben oui, il a pris le climat des Vosges. Et je trouve qu'il a ce petit goût comme ça. Et donc, ça aromatise la lager d'une façon assez agréable, d'une façon rafraîchissante. C'est une bière, moi, que j'apprécie, que je trouve assez délicate. Alors, la deuxième bière s'appelle Halle au Pays des Merveilles. Voilà, qui est un clin d'œil à Alice, évidemment. T'as remarqué, elle a une petite étiquette « Drink me ». Voilà, et est-ce qu'elle va te faire grandir ou te faire raccourcir ? Ça, on verra plus tard. En attendant, visuellement, on a affaire à une bière aussi assez limpide. Bon, beaucoup moins claire que la lager. On retrouve quand même toujours un peu ces fines bulles et la mousse bien blanche et bien tenante. Et puis là, on se dit, oh là, oui, là, il y a du houblon. Hein. Ça envoie un petit peu et on goûte. Alors, quand on goûte, oui, là, on sent vraiment le houblon. On pourrait presque se demander si c'est du citra, mais non, c'est pas du citra, c'est du mosaïque. Elle est full mosaïque. Donc on va avoir un petit côté... alors ça dépend à quel moment on la déguste. Des fois, on a un petit côté fruit exotique, donc où on retrouve différents styles de fruits exotiques, puis des fois, on a un petit côté ananas. Donc là, moi, j'ai plus le côté ananas, mais... Oui, là, on la boit trop fraîche. Hein. Elle est sortie du frigo qui envoie un peu des watts. Mais ça dépend aussi du moment hein, où on va la boire pendant sa garde, en fait. C'est changeant, hein, le houblon. Donc là, c'est une bière, c'est une pale ale hein, qui est dry hoppée, qui fait 5,5. Bien drinkable, quoi. En fait, c'est aussi selon mes goûts. Enfin, pour moi, ça sert à rien d'avoir une bière très forte, si ce n'est pour certains styles, évidemment. Mais pour moi, ça sert vraiment à rien. C'est même le contraire. Plus on a une bière un peu basse en alcool, et plus on va mieux apprécier aussi le savoir-faire, parce que c'est plus compliqué hein, de brasser une bière moins alcoolisée. On est plus aussi sujet à attraper des infections. Aussi, on va plus mettre en avant tous les arômes, en fait. Alors, il faut quand même qu'il y ait un peu d'alcool, parce que aussi, ce qu'on aime bien dans la bière, c'est évidemment aussi un petit peu l'ivresse que ça procure, et ça, on ne saurait s'en passer. Mais pour moi, par exemple, une certaine marque très célèbre belge qui s'amuse avec les houblons et dont la bière fait neuf, pour moi, c'est une aberration. Je préfère goûter les bières très houblonnées, je préfère les goûter aux alentours de 5.
Tu ne seras pas forcément fan de tout ce qu'on fait maintenant, les doubles ou triples IPA, ce genre de choses ?
Alors ça dépend, mais il faut dire que je ne suis pas si fan que ça. J'aime ce travail, j'aime en boire de temps en temps. J'aime par exemple le travail des copains Piggy, qui savent très bien faire ce style. Mais comme la bière est forte, évidemment, il y a énormément de houblons, beaucoup de houblons, des fois trop de houblons. C'est très bon, c'est étonnant. Quelquefois, on a l'impression de boire des jus de fruits alcoolisés, mais au bout d'un moment, voilà, je m'en lasse assez vite. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de subtilité, de complexité dans une bière qui n'est pas too much, que ça soit aussi bien en alcool qu'en houblon.
Donc, dernière bière, la chineuse tourbée.
C'est ça donc la dernière bière, la troisième bière et dernière que je te propose de goûter de nos bières du moment. Et donc une ambrée avec du malt fumé à la tourbe. Donc c'est une bière que j'ai élaborée parce que j'adore le whisky tourbé. J'adore ce goût de tourbe, j'adore ce goût de terre. Et donc je voulais une bière assez équilibrée non plus, comme je te disais tout à l'heure. Pour moi je n'aime pas le too much. Quand je mets une épice, une plante ou un ingrédient, je veux qu'on le retrouve mais en subtilité. Qu'une bière c'est d'abord une bière. Donc j'ai élaboré cette bière avec une base maltée de bière ambrée, houblonnée au chinook. C'est un houblon, je pense, qui se marie très bien avec les bières ambrées. Et donc avec cette pointe de tourbe. T'as vu, elle sort un peu, elle a envie d'être bue. Elle est un peu mousseuse, et un peu beaucoup. J'ai servi comme un gorée. Donc là, on est sur une bière un petit peu ambrée. Donc on a une couleur assez jolie, un peu paille or. Et plus on va avancer dans la bouteille, plus ça va être un petit peu foncé. Toujours ces petites fines bulles. Et puis là, on a une mousse un peu plus importante. C'est vrai qu'elle a tendance un peu à pas mal mousser. Petite collerette aussi, du coup, qui se forme. Et là, quand on met le nez dessus... Alors, le tourbé, c'est difficile hein, en perception. Il y en a qui le perçoivent très rapidement, d'autres qui le perçoivent pas. Moi, je le perçois, en tout cas. J'ai même ma tendance à ne sentir que ça. Donc là, moi, je sens bien la tourbe au-dessus du verre, et on goûte. Donc en goûtant, on a effectivement bien la tourbe qui vient nous tapisser le palais, mais il ne reste pas non plus envahissant dans le style où on perçoit quand même la bière, les arômes caras de la bière et le côté un petit peu résineux du chinook, et tout ça fait un équilibre, je trouve, plutôt assez harmonieux, quoi. C'est pour ça que j'aime cette bière aussi.
Tu voulais rajouter encore un truc ou...
Non, je peux juste dire que, en fait, que les gens sont bienvenus ici, sur ce lieu de vie. Il faut juste prendre rendez-vous. Et puis voilà, je les accueillerai avec plaisir, que ce soit pour discuter, échanger autour de la bière, déguster. Et puis je souhaite qu'on se sorte un peu de tout ce contexte qui n'est pas facile à vivre en ce moment. Et gros soutien aussi aux musiciens, aux artistes, aux restaurateurs et à toutes les professions qui souffrent de ce contexte sanitaire pas du tout évident. Et vivement qu'on se retrouve, qu'on puisse boire des grosses pintes ensemble, en rigolant, sans être masqué.
En tout cas, merci pour l'accueil. Et puis, peut-être à bientôt, ou ça fera plaisir de remonter peut-être avec d'autres copains de Strasbourg.
Eh bien, avec grand plaisir, et vive bière et moustache.
Non mais laissez-moi enlever ma moustache.
Et à bientôt sur le Tipeee.